conducteur de camion girafe, un boom truck, avoir une classe 3 ou classe 1 valide, ou si vous pourrez également conduire le camion plateforme, avoir une bonne forme physique, un des deux postes vous intéresse, faites parvenir votre CV par courriel à maxime@commercialmatériaudirect.com ou encore en personne chez Matériaux Direct de la Bogatière au 135 rue du Parc de l'Innovation.
18.5. L'inimitable. Au réseau Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
Bienvenue à la troisième heure de l'émission. J'accueille avec plaisir les auditeurs et les auditrices de la région de l'Outaouais qui se joignent à nous. Dans quelques minutes, on va parler de notre facture d'électricité. Pourquoi? Parce qu'elle risque de bondir au cours des prochaines années. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a confirmé aujourd'hui que les tarifs connaîtront des hausses importantes d'ici 5 à 10 ans. Alors, Normand Mousseau, qui est directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, il va nous dire si ces hausses, à son avis, sont justifiés ou pas. Et puis, dans une heure, au duel de l'actu, on va parler des journalistes. Est-ce que les influenceurs sont les nouveaux journalistes? Moi, je pense pas, mais on va voir ce que nos panélistes en diront. Geneviève Peterson, animatrice de l'émission « Ça va aller loin » qui suit le Québec maintenant dans notre grille horaire. Et Maude Goyer, journaliste et chroniqueuse, seront avec nous. Et si ça vous tente de vous exprimer sur ce sujet-là dès maintenant, écrivez-nous dans notre messagerie texte 98985. D'habitude, les gens aiment bien ça parler des journalistes qui les aiment, qui les aiment pas, qui les trouvent trop si, pas assez ça, hein, mais ça génère généralement assez de commentaires.
Les gens trouvent ça fatigant,
des journalistes. Ouais, c'est ça, c'est fatigant, des journalistes. Mais d'abord, les nouvelles avec une journaliste, Caroline Bertrand.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Caroline, l'ancien journaliste du Devoir, Michel Venn, devra purger une peine de prison.
Oui, effectivement, il va devoir se livrer aux autorités avant 16 heures le 3 septembre pour purger sa peine d'incarcération. Je rappelle qu'il avait été reconnu coupable de deux infractions de nature sexuelle commises en 2008 sur la documentariste Léa Clermont-Dion. À la suite de l'imposition de sa sentence de 6 mois d'emprisonnement, Michel Venn avait porté sa cause en appel. Mais là, le plus haut tribunal du Québec vient de rejeter l'ensemble de ses arguments. Lui, il critiquait entre autres l'analyse qu'avait fait le juge du procès de la crédibilité des témoignages. Mais la Cour d'appel a rendu un jugement unanime.
Et le suspect dans une affaire de tentative d'attentat à Toronto avait obtenu sa citoyenneté canadienne 2 mois avant son arrestation.
Oui, et ça même s'il est apparu dans une vidéo de l'État islamique, c'est ce que rapporte Global News aujourd'hui. L'homme de 62 ans donc était accusé d'avoir planifié un attentat à Toronto avec son fils de 26 ans. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, a témoigné aujourd'hui devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale à Ottawa. Et en mêlée de presse, il a indiqué que l'existence de cette vidéo-là n'était pas nécessairement connue.
Nos collègues de l'opposition vont exagérer et fabriquer l'idée que tout le monde connaissait l'existence d'une vidéo sur le dark web et que les services de renseignement ont simplement manqué ça. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pleine confiance dans le travail que la GRC a fait. Moi, j'ai pleine confiance dans le service de renseignement de sécurité.
Et l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza est de plus en plus difficile.
Ouais, on sait que l'ONU fait face à de nombreuses contraintes. Les ONG qui se font parfois barrer le chemin. C'est arrivé aujourd'hui au docteur Raphaël Pitti, qui est un médecin anesthésiste réanimateur français. Il devait donc se rendre pour une mission humanitaire à Gaza aujourd'hui. La sécurité israélienne leur a refusé l'entrée. Lui, il est allé à 2 reprises dans la bande de Gaza cette année et il a lancé un cri du cœur sur nos zones aujourd'hui.
Nous avons un devoir d'humanité. Notre humanité au 21e siècle est en régression. À la fin de 39-45, nous avions mis en place le droit humanitaire international, etc. Tout ça est balayé. Tout ça n'existe plus. Au même temps, ce droit n'existe plus. Il y a une véritable régression au 21e siècle et ça, c'est inacceptable.
Et Caroline, en France, la nomination d'un premier ministre continue de faire l'objet de débats. Pourtant, ça fait déjà plusieurs semaines que le deuxième tour des législatives est terminé.
7 semaines, exactement. Ça avait d'abord été reporté en raison des Jeux olympiques. Et là, ça fait l'objet de discussions sans fin, ce qui fait en sorte que Gabriel Attal demeure premier ministre malgré sa démission.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment assez fascinant de suivre ça. Les rencontres à l'Élysée se succèdent l'une après l'autre, mais il n'y a rien qui débloque. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve dans une heure.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir, on fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 17h et une des nouvelles importantes aujourd'hui, bien sûr, là, c'est cette annonce que les tarifs d'hydroélectricité vont augmenter au Québec au cours des prochaines années. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, l'a confirmé. Michel Boisvert, bonjour.
Bonjour, Philippe.
Michel, dans ta chronique, je pense que tu vas aborder ce sujet-là.
Tout à fait. Je vais écouter l'entrevue que tu vas faire.
Oui, dans un instant, avec Normand Mousseau.
Je vais essayer de compléter tout ça.
Excellent. Meeker.
On va parler de sport féminin. Caitlin Clark continue de battre des records. C'est drôle, pendant que j'étais au jeu, beaucoup de gens parlaient d'elle parce qu'elle n'était pas avec l'équipe.
Rappelle aux gens qui est Caitlin Clark.
La recrue par excellence dans la WNBA, la Ligue féminine de basketball américain. C'est déjà une grande vedette, même si elle en est à sa première saison. Et je vais te parler aussi d'Iman Khalif. Tu te rappelles cette boxeuse algérienne?
ça serait difficile de ne pas s'en rappeler.
Oui, mais des fois, les gens ne se rappellent pas du nom.
Je me souviens d'une mini-controverse. Là.
Mais c'est ça. Le nom, des fois, on ne s'en rappelle pas, mais boxeuse algérienne, tout le monde sait de quoi on parle. Est-ce qu'elle se retrouve sur la couverture du Vogue, Philippe? Je réponds à la question et je vous explique l'espèce de campagne qui est autour d'elle présentement.
Excellent, Maker. Est-ce que Valérie Beaudoin est là?
Je suis là.
Bonjour, Valérie.
Bonjour, Philippe.
Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Je vais te parler de plusieurs choses. Entre autres, je vais revenir sur mon voyage à San Francisco. Je vais te parler de ce que j'ai constaté sur place, surtout au niveau de l'itinérance, les problèmes liés aux stupéfiants. Et je vais aussi te parler d'une altercation qui serait survenue entre des membres du camp Trump et des gens au cimetière d'Arlington en Virginie. C'est ce qui fait pas mal les manchettes aujourd'hui.
Ouais, j'ai hâte que tu nous racontes ça.
Moi, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle était pour dire, je vais vous parler de mon voyage à San Francisco. C'est mon voyage de noces.
j'ai déjà donné dans les anecdotes personnelles.
Merci beaucoup, Valérie. On se retrouve un petit peu plus tard. Catherine?
Je vous rappelle que l'exposition, le World Press Photo, a débuté aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller visiter. C'est au Marché Bon Secours. C'est jusqu'au 14 octobre de 10 à 22 heures du dimanche au lundi. Mais attention, les jeudis, vendredi et samedi, c'est jusqu'à minuit.
Jusqu'à minuit.
Et c'est ouvert pendant le congé de la fête du travail et aussi de l'Action de grâce. Alors, vous allez voir un paquet de photos qui se sont démarquées, qui ont été prises un peu partout à travers le monde. Et aussi l'exposition de Charles-Frédéric Ouellet, qui est le premier photographe québécois lauréat du World Press Photo, qui a remporté un prix depuis 25 ans.
Et c'est toujours très remuant, cette exposition-là. Il y a des images qui sont vraiment, qui viennent nous chercher.
Oui,
tout à fait. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve demain.
Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
Bon, alors la nouvelle est tombée aujourd'hui. Le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, qui annonce des hausses importantes, l'expression est de lui, la hausse importante des tarifs d'électricité au Québec d'ici 5 à 10 ans. Alors, nous, souvent, on a tendance à croire, hey, l'hydroélectricité, c'est à nous, ça nous appartient, on devrait pas payer trop cher pour ça, c'est une richesse collective. Mais semble-t-il que cette période-là tire à sa fin. Alors, j'en parle avec Normand Mousseau. Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique. On l'entend souvent s'exprimer sur les enjeux liés à l'hydroélectricité. Professeur Mousseau, bonjour.
Bonjour.
Professeur Mousseau, est-ce que c'est normal que les tarifs d'hydroélectricité augmentent autant au Québec là, au cours des prochaines années?
En fait, c'est les tarifs d'électricité, parce qu'on va rajouter, outre l'hydro, on a déjà mis en place des éoliennes et on va en rajouter beaucoup. Là, donc, ça sera plus seulement de l'hydro. Mais oui, en fait, c'était clair que les tarifs allaient augmenter de manière importante, malgré la promesse du premier ministre, parce que Hydro-Québec va quadrupler ses investissements annuels au cours des prochaines années pour être capable de remplir la répondre à la demande, comme les gens s'électrifient de plus en plus là, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Bon, professeur Mousseau, on le sait, le gouvernement Legault s'est engagé à limiter à 3 % les augmentations annuelles là, à l'heure actuelle. Donc ça, théoriquement, ça va prendre fin.
Ça dépend. Le projet de loi 69, là, qui va être à l'étude, qui a été déposé au début de l'été, suggère soit de maintenir à 3 % puis en faisant payer la différence par les contribuables, Donc, au final, ce serait nous qui allons payer, mais vraisemblablement, ce sera les tarifs là, qui vont augmenter.
Bon, on le sait, là, aujourd'hui, l'Union des consommateurs là, a dit au Journal de Montréal que les tarifs pourraient augmenter de 5,6 à 9 % par année dès 2028. Vous, là, qui analysez ça, là, toute la question de l'électricité au Québec, comment vous pensez que les Québécois vont réagir face à des hausses comme celle-là? Je sais qu'on soupait un peu notre électricité, mais quand même, on n'est pas habitué à des hausses aussi faramineuses.
Non, d'abord, on ne soupait pas notre électricité, c'est-à-dire qu'on paye l'électricité aujourd'hui à un prix suffisant pour qu'Hydro-Québec fasse des profits intéressants pour le gouvernement. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, on a sous-investi dans le réseau ces dernières années. Donc, d'un côté, il faut rattraper le temps perdu, c'est-à-dire on voit les pannes à répétition et autres. Et ça coûte de l'argent de remettre ça à niveau. Ensuite, on s'est engagé, le Canada, comme les autres pays développés, à atteindre la carboneutralité en 2050. Et ça veut dire électrifier encore plus de notre société. Et les nouveaux investissements se font au prix d'aujourd'hui. On bénéficie pour le moment d'électricité pour des investissements qu'on a fait il y a 50 ans qui sont complètement amortis. Bon, les nouveaux investissements, il faudra les amortir au cours des prochaines années et ça va coûter de l'argent. Mais il faut comprendre que quand on électrifie, c'est pas le tarif au kilowattheure qui est important, c'est combien d'énergie, combien ça me coûte au total. Si j'achète une voiture électrique, aujourd'hui, même si on doublait les tarifs d'électricité, ça me coûterait encore moins cher que l'essence pour faire fonctionner ma voiture électrique. Mmh. Alors, j'ai au total des gains, même si le kilowattheure est plus cher. Bon, mais... Même si dans la maison, j'installe une thermopompe, mais je réduis de moitié ma consommation d'énergie, d'électricité. Donc, même si le tarif double, ça ne me coûtera pas plus cher que ça me coûtait avant ma thermopompe.
Mais ça va prendre beaucoup d'électricité. De là, les investissements majeurs que consentira Hydro-Québec. Mais on va trouver où cet argent-là? Je regarde les chiffres. Puis pour le commun des mortels, on regarde ça, professeur Mousseau. Là. La Société d'État, nous dit la presse, prévoit des investissements de 155 à 185 milliards de dollars d'ici 2035. Comment on réussit ça, une opération semblable?
On va sur les marchés, puis on emprunte. Puis après ça, il faut rembourser la dette. Donc, c'est pour ça que les tarifs vont augmenter. Il va falloir payer. Au final, il n'y a pas de mystère. Là. C'est les consommateurs d'électricité qui payent la note. On va l'emprunter. Tout ne sera pas payé la première journée. Là.
Non, évidemment. Puis est-ce qu'on a assez de travailleurs pour faire ça? Ça aussi, c'est un problème, la main-d'œuvre. On le sait, il y a un déficit de travailleurs au Québec. On risque de se battre pour trouver des gens pour aller travailler sur différents chantiers. Et là, Hydro-Québec aussi va vouloir sa part de personnel pour mener ses projets à bien.
Absolument. C'est pour ça, pour moi, il y a un travail à faire d'éducation puis d'explication puis de dire aux gens que même si on veut nous faire peur en disant les tarifs vont doubler, d'abord, ça va être sur plusieurs années. Ensuite, il va falloir que le gouvernement accompagne les gens, surtout ceux qui ont moins de revenus, pour qu'ils puissent bénéficier des nouvelles technologies. Moi, j'ai les moyens de m'acheter une voiture électrique, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et donc, tout le monde ne peut pas bénéficier de l'économie qui est faite à ce moment-là ou d'installer une thermopompe. Donc, il faut absolument aider les plus démunis de ce côté-là. Et pour les travailleurs, ben, je dirais, il faut aussi augmenter la productivité. Il faudra avoir besoin de moins de travailleurs pour faire la même chose. Et ça, il y a un problème dans la construction, dans les grands travaux. La productivité est très faible. Il va falloir travailler à l'augmenter, à dire comment je peux installer des pylônes plus facilement, comment je peux tirer des lignes plus facilement, mais aussi comment je peux approuver des projets plus rapidement.
Est-ce que le gouvernement va devoir faire des efforts pour aider les citoyens à mieux hiverniser leur maison, par exemple? Parce qu'on le sait, là, de l'électricité, il y en a beaucoup qui se gaspillent. Dans le passé, il y a eu un certain nombre de ces programmes-là. Est-ce que pour vous, c'est une bonne façon d'agir?
Mais la priorité, ce sera de changer le système de chauffage, même avant d'hiverniser. Là, mais oui, mais il va aussi falloir aider les bonnes personnes. C'est-à-dire, on peut pas, par exemple, présentement, maintenant, les tarifs bas, l'augmentation est faible, mais ça aide tout le monde, de ceux qui n'ont pas de moyens à ceux qui ont amplement les moyens de payer l'électricité au prix qu'elle coûte réellement. Donc, il va falloir concentrer cette aide-là vers les groupes qui en ont plus besoin, je pense.
Ah, voilà. Et ça, c'est toujours délicat pour le gouvernement. On l'a vu là, avec les baisses d'impôts, comment on gère ça. Il y a des choix politiques qui sont parfois déchirants à faire. Normand Mousseau, vous êtes professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique. Merci d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir.
Bonne journée.
politique américaine avec Valérie Beaudoin.
Rebonjour Valérie.
Rebonjour Philippe.
Alors, on a appris hier que Donald Trump était visé par un nouvel acte d'accusation dans le dossier en lien avec les tentatives d'invalider les résultats de l'élection de 2020. Est-ce que ça change quelque chose?
Et on en parle encore en 2024.
Oui, tout à fait.
Moi, j'aimerais faire une espèce de poule, pas savoir qui va être président, savoir quand on arrête d'en parler.
Oh boy!
Je ne sais pas si toi, tu veux t'avancer. Ça va-tu arriver un jour? Je ne sais pas.
Moi, je pense qu'on va en parler encore en 2028.
OK, parfait. Ouais.